Bonjour, Marco, compte à rebours. CFM, le rock, la pop, le folk. Et oui, parce que le folk, on l'entend pas beaucoup, bien c'est peut-être compte à rebours. Le folk, à l'origine, ça veut dire tout ce qui était populaire, la musique, mais il y avait aussi le folklore oral, les contes. Eh bien, c'est compte à rebours aussi, les contes, les histoires, les légendes. Alors, j'ai un auditeur qui m'a dit « Vous avez un générique magnifique, et d'où vient-il » Eh bien, je lui dis « C'est de la musique japonaise. Hein. » Et on l'écoute un peu parce que me le voit. Yasuba Chun et Anchang Project, voilà le nom de ce groupe qui joue au Japon, et le titre c'est Amagoi Bushi. Mais cet auditeur m'a dit, d'accord, un générique en japonais, mais des histoires japonaises, on n'en entend pas beaucoup. C'est vrai qu'à une époque on a eu des petits contes zen très courts avec Nasreddin, mais depuis un moment on n'a plus le temps de les caser. Alors j'ai dit, ben allez. On est parti, on va faire aller au moins deux émissions avec des contes japonais et aussi de la musique japonaise. Parce que la musique japonaise, c'est quelque chose quand même. Il y a sans doute, vous connaissez les instruments phares de la musique japonaise, le koto, hein, une espèce de sitar. Le shakuhachi ou shakuhachi, c'est une flûte magnifique. Bon, les tambours, la voix. Vous verrez, il y en a pas mal de musique dans cette émission. Quant aux contes, ils sont courts, vifs. Hein. C'est pour ça qu'on peut les qualifier de contes zen. Hein. Bon, c'est-à-dire ils nous poussent à réfléchir au-delà de la logique habituelle. Mais on peut dire quand même que normalement, c'est ce que sont censés faire tous les contes. En tout cas, là, on part en Extrême-Orient ou en Orient extrême. On part au Japon tout de suite. Il était une fois un marchand de soie qui gravissait une montagne, sous la chaleur brûlante de midi. Il traversait un pays où l'on trouvait beaucoup de brigands, et pour se donner du courage, il fredonnait une chanson. Je suis le marchand de soie qui vient de Chine, mes étoffes ont belle mine. Dans ma hotte de bois, j'ai des rouleaux pour les parents, j'en ai pour les enfants, de la soie verte et blanche ou dorée. Pour 20 brassées, je fais un rabais. Achetez, achetez-en. Vous serez tous contents. Je suis le marchand de soie qui vient de Chine. Mes étoffes font belle mine dans ma hotte de bois. La journée s'avançait et il faisait de plus en plus chaud. Aussi, le marchand de soie résolut de s'offrir une bonne sieste sous un arbre. Il choisit un endroit paisible, ombragé bien sûr, à proximité d'un tombeau sur lequel veillait une mangue du soc, c'est-à-dire une statue traditionnelle des esprits de la nature taillée dans le granit. Quand le marchand s'éveilla de sa sieste, le soleil déclinait à l'horizon. Il s'ébroua, jeta un coup d'œil autour de lui et poussa un cri. Sa hotte était vide. Pendant son sommeil, un voleur avait dérobé tous ses rouleaux de soie. Désespéré, le marchand se hâta vers la ville voisine. Il demanda audience au préfet qui gouvernait la province pour réclamer justice. Le gouverneur le reçut dès le lendemain matin. Il écouta avec attention le marchand et l'interrogea. « Avant de t'assoupir, as-tu remarqué une présence dans les environs ?»« Non, seigneur, il n'y avait que la mangue du soc qui fixait le tombeau de ses yeux de pierre. » « Ah ah !» dit le préfet, « la mangue du soc veillait. Bon, je vais réfléchir à ton problème. Reviens demain, je te dirai ce que j'ai décidé. » Le lendemain était le jour où le préfet rendait la justice devant le peuple assemblé. Quand l'affaire du marchand de soie fut évoquée, il ordonna à ses gardes, « Allez me chercher la mangue du soc qui garde le tombeau. Elle connaît le voleur et c'est notre seul témoin. » Les gardes, un peu étonnés, mais habitués à obéir sans discuter, partirent dans la montagne. Ils ramenèrent la lourde statue de granit et la déposèrent au pied de l'estrade. Alors le préfet ordonna qu'on l'attache au poteau de justice. « Donnez-lui 20 coups de fouet, elle nous dira qui était le voleur. » On lui donna 20 coups de fouet, mais la statue demeurait silencieuse. Alors le préfet s'écria « Qu'on lui administre 100 coups de fouet, on verra bien si elle s'obstine à garder le silence. » Dans la foule, les premiers rangs s'agitèrent. « Notre préfet est devenu fou !» disaient les habitants, et les rires fusèrent. La mangue du soc, malgré les coups de fouet, se taisait toujours. Pas un tressaillement, pas un battement de paupières sur les yeux de pierre. Le préfet, rouge de colère, s'exclama « Donnez-lui 100 coups de bâton !» Et le fouet sifflait, le bâton frappait de plus en plus fort, sans autre résultat que l'impassibilité et le silence. Quelques insolents s'enhardirent à brocarder son excellence, Monseigneur le gouverneur. « Il a perdu l'esprit. Frappe tant que tu voudras, qui peut faire parler une statue de pierre ? Ouh ! Ce préfet est un démon, ou il est ivre ?» Et les rires d'éclater de plus belle. Alors, son excellence le préfet tourna vers la foule des yeux sévères. « Oh là, garde » dit-il, que l'on saisisse sur le champ les rieurs, les insolents, les rebelles qui osent se moquer de leur seigneur, et qu'on les jette dans un cul de basse fosse. Ensuite, il se tourna vers le marchand de soie et l'assura. « Mon ami, ne crains rien. Tu retrouveras ton bien. » Le lendemain, le préfet fit ouvrir la prison et ordonna que l'on amena devant lui les 10 impertinents arrêtés la veille. Ceux-ci avaient eu le temps de réfléchir à leur sort et ils avancèrent en tremblant. « Vous méritez la mort, » dit le préfet. « Vous avez perturbé le bon déroulement d'une cour de justice et bafoué votre seigneur. » Les 10 prisonniers se jetèrent aux genoux du préfet en implorant sa pitié. « Je veux bien vous faire grâce, » dit le gouverneur, « à une condition. »« Nous ferons tout ce que vous ordonnerez, » firent-ils d'une seule voix. « Vous vous présenterez ici dans 3 jours avec un rouleau de belle soie. » Aujourd'hui, le préfet fit appeler le marchand. « Reconnaîtrais-tu la soie que l'on t'a volée ?»«
Oui, seigneur. »
« Faites entrer les 10 prisonniers, » commanda le gouverneur. Ils avancèrent, le front baissé, chacun tenant entre ses bras en un geste d'offrande un rouleau de belle soie blanche, verte, dorée.
« C'est mon bien, c'est ma soie !» s'écria le marchand.
Une enquête permit de confondre un certain Chou, riche commerçant dans la ville voisine qui avait fait dérober la soie par un serviteur et il l'avait vendue sans scrupule au dit notable arrêté par le préfet. Il fut puni pour son crime selon les rigueurs de la loi. Derrière sa croisée, le gouverneur regarde s'éloigner le marchand de soie. Il perçoit longtemps l'écho de son chant. « Je suis le marchand de soie qui vient de Chine. Mes étoffes ont belle mine dans ma hotte de bois. J'ai des rouleaux pour les parents, j'en ai pour les enfants. De la soie verte, blanche ou dorée. Pour 20 brassées, je fais un rabais. Achetez, achetez-en, vous serez tous contents. Je suis le marchand de soie qui vient de Chine. Mes étoffes ont belle mine dans ma hotte de bois. Où vas-tu, marchand de soie ?
J'y suis déjà. »
Il était une fois un petit singe qui, avec sa longue queue, son air malin et sa touffe de poils à la pointe de chaque oreille, ressemblait un peu à Ouistiti. À la suite de quelles circonstances avait-il atterri dans le dojo de Yagyu Tajima, le grand maître dans l'art du sabre? Nul ne le sut jamais. Mais il était présent à tous les exercices, se mêlait aux élèves et s'efforçait de les imiter. Un matin, un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, se présenta à la porte du dojo de Yagyu Tajima et sollicita l'honneur de recevoir l'enseignement du sabre. Afin de montrer sa valeur, il offrit de combattre tel adversaire qu'on voudrait lui opposer. Le maître sourit et dit « Je t'accepte comme disciple si tu peux vaincre mon singe. » Le ronin, étonné, mais sûr de lui, accepta. On remit à chacun le sabre de bois en usage pour les exercices et le maître donna le signal du combat. Le petit singe exécuta quelques moulinets à une vitesse folle, effectua un saut périlleux et se retrouva en équilibre sur le dos de son adversaire et avant que ce dernier reprenne ses esprits, il lui fit sauter le sabre des mains. Le ronin, vexé et confus, se retira. Il se retira et se mit farouchement à l'étude de l'art du sabre, Kenjutsu. Seul, dans son petit ermitage, il y consacra ses jours et ses nuits. Il pratiquait aussi Zazen, la méditation assise, et il progressait au fil des mois sur la voie. Peu à peu, il se délivra de ses illusions, de ses doutes, de ses lâchetés. Il se libéra de son orgueil, du désir et de la peur. Et le mental dépassé, il accéda à l'état paisible de l'harmonie avec l'univers. Plusieurs années s'écoulèrent. Et un matin, l'ancien ronin se jugea prêt. Il se présenta à nouveau à la porte du dojo de maître Yagyu Tajima. « Je suis venu combattre le singe, » dit-il. On alla acquérir le Ouistiti. On lui mit dans les mains un sabre de bois. L'animal, vif et malicieux, s'avança. Mais quand il aperçut l'ancien ronin devenu ermite, il poussa des cris perçants, laissa tomber son arme et se sauva en courant. « Entre, fit le maître, tu es le bienvenu parmi mes élèves. » Il était une fois un jeune homme qui vivait avec sa mère dans une pauvre cabane. Il décida un jour d'aller chercher du travail dans la grande ville. En chemin, alors qu'il gravissait le sommet d'une montagne, il fut surpris par la tempête. La nuit tombait. Heureusement, il aperçut au loin une lumière et se dirigea vers elle. Trempé jusqu'aux os, il frappa à la porte. Une jeune femme, souriante et très belle, l'accueillit. Sa voix était mélodieuse, une sorte de crescendo liquide, clair et flûté, qui faisait danser chacune de ses phrases. Elle lui offrit à manger. Tandis qu'il se restaurait, la jeune femme le questionna. « Je vois, dit-elle, après t'avoir écouté, que tu espères trouver du travail à Edo, dans la grande ville. Mais sache que je vis seul ici, et j'ai besoin de quelqu'un qui travaille pour moi. Veux-tu être cet homme ?» Et le jeune homme accepta. Le garçon coupait le bois, accomplissait les tâches journalières, labourait le champ. Il était courageux et honnête, et la femme l'appréciait. Un jour, elle lui dit « Je dois m'absenter quelque temps, tu sais qu'il y a derrière la maison trois réserves. Je te demande expressément de ne jamais pénétrer, ni même regarder, à l'intérieur de la troisième. » Le jeune homme obéit scrupuleusement. Il n'entra jamais dans la troisième réserve, ni jeta même pas un regard furtif. Une année passa ainsi. Un matin d'automne, il dit « Je voudrais revoir ma mère. Peux-tu me donner mon congé ?» La femme de montagne lui remit une pièce enveloppée d'un beau papier de soie. « Voici ton salaire, » fit-elle. « Je pense que tu en seras satisfait. » Le garçon rentra chez lui. Il déplia le papier de soie et il découvrit une pièce de monnaie finement ouvragée. Ne sachant qu'en faire, il alla la montrer au chef du village qui s'écria « C'est une pièce très rare que l'on appelle le sou du rossignol parce que ce noble oiseau met 1 millier d'années pour la réaliser. Je suis prêt à te l'acheter 1000 écus. » Le jeune homme accepta. Il devint riche, il se maria et vécut heureux. Or, un voisin le jalousait. Il brûlait du désir de posséder à son tour le sou du rossignol. Et il finit par demander au jeune homme comment il se l'était procuré. Celui-ci lui donna volontiers toutes les explications sur son aventure dans la montagne. Et le voisin cupide partit aussitôt. Il rencontra la femme dans la montagne qui vivait seule. Il lui proposa ses services, il fut engagé. Il travaillait avec ardeur, sachant qu'au bout d'une année, il obtiendrait la merveilleuse récompense. Un matin, la femme lui dit « Je m'absente quelques jours. Derrière la maison, il y a trois réserves. La troisième est secrète et close. Tu ne dois y pénétrer sous aucun prétexte, ni même y jeter un seul regard. » Le voisin cupide songea. « C'est dans cet endroit que la femme cache son trésor. Demain, j'irai avec un grand sac, je l'emplirai des pièces merveilleuses et je deviendrai l'homme le plus riche de la terre. » Le lendemain, quand il fut bien assuré que la femme de la montagne était partie, il entra dans la troisième réserve. Alors, il vit dans une grande chambre vide une branche de prunier en fleurs, sur laquelle un rossignol chantait. Dès qu'il l'aperçut, l'oiseau s'envola. La maison disparut à l'instant, et le voisin cupide se retrouva assis sur un tas de broussailles, seul dans la montagne. Un jour du temps passé, dans l'ancienne Chine, un ermite, un peu magicien, reçut la visite d'un ami de jeunesse. Il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Il s'appelait Xiang Zhu. Le saint moine magicien vivait depuis de nombreuses années au cœur de la montagne profonde. Aussi accueillit-il son ami avec effusion et joie. Il lui offrit le repas et un abri pour la nuit. Le lendemain, il lui dit « Xiang Zhu, en souvenir de nos jeunes années, je veux te donner un cadeau. » Et pointant son doigt sur une pierre, il la transforma en un bloc d'or pur. Mais là, au lieu de se réjouir, son ami Xiang Chu gardait l'air maussade. Il ne le remercia même pas. Et lui dit « Moine Wei, j'ai fait une longue route pour venir jusqu'à toi, au cœur de la montagne profonde. Pourquoi me contentais-je d'un petit bloc d'or pur ?» L'ermite, désireux de faire plaisir à son ami de jeunesse, pointa alors son doigt sur un gros rocher et le transforma à son tour en un bloc d'or pur. « J'espère que tu es satisfait, dit-il en riant, et j'espère que ton âne pourra le transporter. » Mais Xiang Zhu ne souriait pas. Il conservait son air maussade. « Que désires-tu donc ? » demanda le moine. Alors, Xiang Zhu, son ami de jeunesse, sortit un grand couteau qu'il portait à la ceinture. « Ce que je veux, dit-il, c'est le doigt. » Voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui, donc des contes japonais. En fait, le premier était coréen et le dernier chinois, mais enfin bon. En tout cas, ils viennent d'un livre d'Henri Brunel, Les plus beaux contes zen. Et les musiques étaient japonaises, oui, 100%, tout comme ce magnifique générique. Je vous dis donc à la semaine prochaine, c'était Marco, compte à rebours. Thank you.